Bénissons le Seigneur parce que son œuvre est partout, en tout lieu. Le Seigneur agit, vous en êtes convaincus ? Même quand on ne le voit pas, il agit. Saint-Esprit agit, nous en sommes convaincus, il agit ici, il agit à Mazamé et nous bénissons le Seigneur des encouragements qu'il peut aussi nous donner là-bas, avec quelques personnes nouvelles qui fréquentent depuis quelque temps l'Église. J'aimerais avec vous ouvrir la Bible. On va lire deux premiers textes d'introduction, on en lira d'autres ce matin. Tout d'abord dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Verset 1er. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie qui s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes le murmuraient, disant : cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole : quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit : réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdu. Amen. Que Dieu soit béni. Nous lisons un second texte dans Marc chapitre 10, verset 17. Marc 10, 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit : « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il lui dit : il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples : qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et, reprenant, il leur dit : « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres : « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit : cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Premier abord, il est vrai que les deux textes que nous avons lus n'ont pas grand-chose en commun. Ils traitent de sujets différents. Toutefois, j'ai choisi ces deux textes d'introduction, on en lira d'autres, par rapport au sujet qui me tenait à cœur depuis quelque temps et de partager avec vous. J'aimerais partager avec vous ce sujet par rapport à ceux qui recommencent dans la foi. Alors, il y a ceux qui commencent dans la foi, c'est-à-dire ceux qui, pour la première fois de leur vie, découvrent Jésus, découvrent ce qu'est la foi en Christ. Et puis, il y a ceux qui recommencent. La différence, peut-être, est minime aux yeux de certains. Mais quand on réfléchit un petit peu, on voit qu'entre commencer et recommencer, il y a une différence Et surtout, il y a des difficultés à recommencer. Et j'aimerais partager avec vous ce matin, tout en sachant qu'il m'aurait peut-être fallu 2 ou 3 dimanches, mais comment recommencer ? Comment recommencer ? Par où recommencer lorsque on s'est éloigné et qu'il y a ce désir tout à nouveau dans le cœur de revenir à la foi, de revenir à Jésus, de recommencer dans la foi? Par où commencer ? Et certains se posent la question. Recommencer sans prendre les mêmes travers. Et puis aussi, comment l'Église doit-elle recevoir, doit-elle accueillir, doit-elle se comporter par rapport à ceux qui recommencent ? Alors quand il y a quelqu'un qui commence dans la foi, il y a beaucoup de joie, on encourage la personne. Mais quand c'est quelqu'un qui recommence, ce n'est pas toujours si évident, surtout par rapport à la manière et aux raisons pour lesquelles la personne est partie. Ce n'est pas si évident. Au travers de ce message, j'aimerais surtout ce matin donner de l'espoir et de l'encouragement à ceux qui recommencent dans la foi, de l'espoir et de l'encouragement à ceux qui ont vu un de leurs amis, un de leurs membres de leur famille s'éloigner. Il y a un espoir en Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Et je veux croire que l'Église va voir des personnes qui recommencent dans la foi. Amen. Tout d'abord, le premier point, pour quelles raisons des personnes se sont-elles éloignées de la foi ? Pour quelles raisons certaines personnes se sont éloignées de l'Église ? Quoique les deux choses sont différentes, s'éloigner de la foi et s'éloigner de l'Église, c'est quand même différent, vous le pouvez le comprendre. On peut s'éloigner de l'Église sans s'éloigner de la foi. Quoique, en s'éloignant de l'Église, on est quand même en danger. Puisque nous savons que dans l'Église, il y a un encouragement, on s'encourage les uns les autres, on prie les uns pour les autres, on entend la parole de Dieu, on est dans la communion fraternelle. Donc il y a quelque chose de précieux pour la foi, il persévérait dans la communion fraternelle. Nous sommes, qu'il est doux, et ce psaume 133, pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Mais c'est quand même différent de s'éloigner de la foi et s'éloigner de l'Église. Certains s'éloignent de la foi et de l'Église, on va globaliser, j'allais dire, sans faire la nuance ce matin, mais après l'enfance. Ils ont grandi dans l'Église, j'allais dire, ils ont été enseignés depuis tout petit dans l'Église par leurs parents ou voire leurs grands-parents. Ils ont reçu le message de l'Évangile le dimanche matin, ils allaient à l'école du dimanche, il y avait là tout un programme, et ils priaient, etc. Et puis, arrivés à l'adolescence ou lors de la jeunesse, attirés par toutes sortes de choses, séduits par toutes sortes de choses, pris dans les spirales de la vie, dans les affaires de la vie, dans les travaux de la vie courante, etc. Eh bien, ils ont été comme aspirés et disparus. L'heure est là, la douleur est là. On a un petit peu ce cas de figure avec ce jeune homme riche. Ce jeune homme riche a été enseigné depuis tout petit. La preuve en est, c'est que ce jeune homme riche connaît les commandements. Il connaît les commandements, il a été enseigné dans la loi de Moïse, etc. Il connaît la Torah, il connaît les commandements, il s'efforce de les appliquer, mais on voit que son cœur a été pris par quelque chose, il a été pris par l'amour des richesses. Pour d'autres, ça va être autre chose. Mais pour lui, c'est son cas, il est pris par l'amour des richesses. Il y a bien des choses qui aspirent parfois ces enfants qui ont connu l'Évangile depuis tout petit, ça les aspire, ça les retire, ça les éloigne de la foi. Quelque part, parfois, ils ont gardé des bonnes choses de leur enfance. Ils ont gardé des bonnes choses de leur éducation chrétienne. Ils ont une bonne moralité, comme ce jeune homme avait aussi une bonne moralité. Ils sont des gens sans histoire, qui respectent les autres, qui ne commettent pas d'extorsion. Ils respectent leurs parents. Mais leur cœur a été pris par autre chose. Leur cœur a été pris par autre chose. jusqu'au moment où il y a ce désir, ils se rendent compte dans leur cœur qu'il y a un vide. Et quand on recommence, il y a toujours quelque chose qui va déclencher le retour. Un événement, quelque chose qui se passe dans le cœur, peut-être une insatisfaction qui est là, un événement, une parole qu'on reçoit. Il y a quelque chose qui fait que la personne va désirer, va vouloir revenir. Lui, il va aller trouver Jésus parce que, bien sûr, il a entendu parler de Jésus et il se pose la question, c'est ça, voilà, c'est que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors Jésus lui dit ce qu'il a à faire, mais il repart, tout triste. J'aimerais donner un encouragement ce matin aux parents, aux grands-parents, qui ont vu leurs enfants enseigner dans cette église ou dans une autre église, qui ont passé leur enfance dans une église et qui ont reçu et qui ont marché un moment jusqu'à l'adolescence, jusqu'à la jeunesse, peut-être même jusqu'au début de la vie d'adulte, et qui, à un moment donné, se sont détournés du Seigneur, se sont éloignés. Qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 21? Jésus l'ayant regardé, l'aima. L'aima. Malgré le mauvais choix que ce jeune homme a fait, Jésus l'a aimé. J'aimerais vous dire, bien aimés parents, grands-parents qui souffraient de voir votre enfant qui s'est éloigné de la foi, que lorsque Jésus le regarde, il l'aime. Il l'aime. Il y a une place dans le cœur de Dieu pour ces brebis égarées. Il y a une place dans le cœur de Dieu pour ceux qui se sont éloignés. Il est toujours celui qui les aime. Il est toujours celui qui veille sur eux. Il est toujours celui qui les suit de regard. Il sait très bien où ils en sont aujourd'hui. Il les aime. Il les porte dans son cœur. Le problème ici, c'est que ce jeune homme, partout triste, s'ensuit un enseignement de Jésus qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Tant qu'ils sont aspirés, bien sûr, par ces choses-là, il y a l'éloignement qui est là. Et parfois, on se dit, mais ce n'est pas possible qu'ils reviennent. Ils se sont tellement éloignés du Seigneur, ils se sont tellement éloignés. Qui peut donc être sauvé? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Aussi loin sont-ils allés, Dieu est grand pour aller les chercher là où ils se trouvent. Si aujourd'hui ils ne peuvent pas se débarrasser de ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu comme le chameau passe par le trou d'une aiguille, Dieu est grand pour le faire. Dieu est grand pour faire quelque chose dans leur cœur. Dieu est grand pour susciter un événement. Dieu est grand pour leur donner une parole. Dieu est grand. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peut-être avez-vous tout essayé. Vous avez essayé de les raisonner. Vous avez essayé de leur citer certains versets de la Bible qu'ils ont entendus quand ils étaient petits. Peut-être même vous avez dit, moi j'y arrive pas, je vais demander à quelqu'un qui l'a connu, à un ancien ami, peut-être nul n'est prophète en sa patrie, si c'est quelqu'un d'autre de la famille qui va lui parler, peut-être que ça marchera, sauf que ça ne marche pas comme ça. Alors on essaye toutes sortes de choses, toutes sortes de stratégies, toutes sortes de méthodes pour essayer de ramener. Bon, ça part d'un bon sentiment, mais il faut avouer que parfois, ça fait plus de mal que de bien. Et ça braque la personne. Et ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que nous avons des témoignages, parce que nous avons des expériences. Et béni, merci Seigneur, de ces enfants qui se sont éloignés et qui, Dieu est grand et il a su leur parler d'une manière ou d'une autre, ils reviennent, ils recommencent dans la foi. Dans Matthieu 18, Jésus parlant des enfants. Pas oublier que ce contexte nous parle de Jésus qui parle des enfants. Il dira qu'il n'est pas dans la volonté de notre Père qu'il se perde un seul de ses petits. Et il parle là des enfants. Un seul de ses petits. Alléluia. Il y a des petits, eh bien, qui se sentent éloignés, mais Jésus n'a pas cessé de les suivre. Il n'a pas cessé de les suivre. Il sait très bien là où ils en sont aujourd'hui aussi. Nous voulons prendre courage. Une autre raison pour laquelle certaines personnes s'éloignent, c'est après une épreuve. Une difficulté, peut-être une maladie, peut-être un drame, enfin une épreuve. Peut-être qu'à ce moment-là, ils ont pensé que Dieu les abandonnait. Ou alors que Dieu est injuste. Parfois, on se fait des idées sur Dieu. Par exemple, Dieu est amour. C'est écrit dans la Bible. Dieu est amour. Amen. Et tout dépend de l'idée de l'amour qu'on se fait. Vous comprenez ? Dieu est amour selon ce que la Bible enseigne de l'amour. Et non pas une certaine sensiblerie, non pas un sentimentalisme, j'allais dire comme cela, facile. Certains se font une mauvaise idée de l'amour. Donc, quand on dit « Dieu est amour » et qu'il nous arrive quelque chose, on pense soit que Dieu ne nous aime pas ou qu'il est injuste parce qu'il bénit l'un et puis moi, il ne me bénit pas. Il a guéri un tel et moi, il ne me guérit pas. Dieu est amour. Alléluia. Et comprenons bien ce qu'est l'amour selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc certaines personnes, passant par l'épreuve, peuvent s'éloigner et revenir. D'autres se sont éloignés après un péché. Alors, vous savez, le péché, ça nous enveloppe si facilement. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Certains se sont fait envelopper par le péché. Alors, autant le dire tout de suite, plutôt qu'à la fin, il y a des retours impossibles. Je préfère le dire maintenant plutôt qu'à la fin du message. Il y a des retours impossibles. Nous étudions depuis quelques mardis la première épître de Jean. Et la première épître de Jean nous parle d'un péché qui mène à la mort. Donc il n'y a plus de solution. Un péché qui mène à la mort, dans 1 Jean chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Vous voyez, il y a quand même des situations. Et puis quand on lit Hébreux 6, Hébreux chapitre 6, verset 4. Car il est impossible. Il est impossible. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Il y aura d'autres textes encore, dans Hébreux 10 notamment, qui nous montrent qu'il y a des situations de non-retour. Il y a des situations de non-retour. Mais ce n'est pas à nous de juger, parce que nous ne sommes pas dans les cœurs. Dieu seul sait où la personne en est réellement, mais il est évident qu'il y a un péché qui mène à la mort où il n'y a plus de remède. Parce que les personnes ont été tellement loin, ont renié leur foi après avoir goûté le Saint-Esprit. Alors la question se pose parfois, mais un frère et une sœur après avoir fait ça, mais est-ce que c'était vraiment un frère ou une sœur avant? Parce qu'on peut avoir pris son baptême sans avoir été converti. Prenez. C'est pour ça que, en fin de compte, Dieu connaît les cœurs ou non. Il sait si la personne et dans une situation de non-retour ou pas. Nous voulons prier pour ceux qui se sont fait envelopper par le péché. Dieu est grand pour les en délivrer. Nous croyons. Et nous avons déjà vu, la preuve en est, des personnes qui se sont fait envelopper par le péché, qui sont tombées dans le péché et qui sont revenues à la foi, qui ont recommencé à la foi. Il y a malheureusement des personnes qui, reniant leur foi après avoir connu la grâce, reniant leur foi après avoir été transformés, nés de nouveau, ont goûté au Saint-Esprit, ont eu part à toutes ces choses-là, ils ont renié leur foi, il y a des situations de non-retour. Mais il y a des personnes qui, même si à un moment donné ont chuté, même si à un moment donné se sont laissés à prendre par le péché, peuvent revenir. Dans ces situations-là, il nous faut prier vraiment le Seigneur. Il y a encore un espoir pour ces personnes. Amen. Il y a un espoir pour ces personnes. D'autres raisons encore, c'est peut-être par négligence, par endormissement. Ils se sont endormis un peu dans la foi. Vous savez, qu'un peu comme Eutychus. Dans Acte 20, il nous est parlé d'un jeune homme qui était assis sur le bord de la fenêtre. Paul prêchait longtemps ce jour-là, enfin cette nuit-là, il prêchait longtemps. Et il nous a dit que, voilà, il s'est endormi pendant le long discours de Paul. Bon. Et après, Paul, il a prêché jusqu'au matin, parce qu'il a concentré tout ça, parce qu'il devait partir ailleurs. Et voilà que Eutychus, s'endormant, eh bien, il tombe. Il tombe, mais du mauvais côté, il tombe dans la rue. Quand même, 3 étages, c'est pas rien. Voilà, et puis, l'apôtre Paul descend. Il est mort. Mais qu'est-ce que dit l'apôtre Paul ? Ne vous troublez pas. Son âme est encore en lui. Ne vous troublez pas, son âme est encore en lui et il a été ramené vivant. Je crois que certaines personnes qui se sont endormies, certaines personnes qui ont été négligentes dans la foi et qui se sont éloignées, certains, leur âme est encore en eux. Le Seigneur n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Alléluia. Il est grand pour les réveiller, surtout avec les événements qui se passent aujourd'hui. Nous savons que nous allons de mal en pis, nous savons que certaines prophéties de la parole de Dieu, certains textes de la parole de Dieu nous interpellent aujourd'hui. Et ces événements que nous voyons aujourd'hui, eh bien, sont comme des coups de trompette, des coups de tonnerre qui peuvent réveiller ces personnes-là. Dieu est grand pour les réveiller. Dieu est grand pour ranimer ce lumignon qui fume encore. Alléluia. Et ils peuvent revenir. D'autres personnes se sont éloignées après un conflit. Un conflit entre frères, entre sœurs en Christ, ça peut arriver. Et ils se sont dit, bon, puisque c'est comme ça, je reste tout seul. C'est vrai que tout seul, on a des problèmes qu'avec soi-même hein, à ce moment-là. Mais celui qui se tient à l'écart s'irrite contre tout ce qui est sage. Vous connaissez le proverbe. Alors, ces personnes-là, il est vrai, après un conflit, ne trouvent de solution que dans le repli sur soi, que dans l'éloignement. Mais là encore, Dieu est grand pour les ramener. Alors toutes ces personnes, quelles que soient les raisons, peuvent recommencer dans la foi. Le Seigneur est un Dieu d'espérance. Alléluia. Il est un Dieu d'espérance, il est celui qui prend patience. Et ces personnes-là peuvent recommencer, mais ce n'est pas si évident que ça. Et par expérience, je vois que des personnes qui veulent recommencer dans la foi ne savent pas toujours par où recommencer. Certaines personnes tellement fort de ce qu'ils ont vécu, de leur éloignement, vont se donner à fond et vont être excessifs. Ils vont adopter un zèle excessif dans des actes de piété ou alors se donner à fond dans un service pour Dieu, comme pour rattraper le temps, comme pour se racheter. Et là, tomber peut-être dans un autre travers qui serait de tomber dans la religiosité, qui serait tomber dans un zèle excessif, dans du fanatisme, dans du légalisme. Par où recommencer ? D'autres sont désemparés, mais comment je fais maintenant ? Oui, je reviens, mais comment je fais ? D'autres sont blessés. Et pendant tout ce temps d'éloignement, ils ont été meurtris dans leur cœur et ont besoin de restauration. Et ont besoin de beaucoup de patience. Surtout qu'il y a beaucoup d'émotions quand on revient quelque part. Il y a beaucoup d'émotions quand on remet les pieds quelque part, quand on recommence quelque chose. Alors, par où recommencer? Mais pourquoi ne pas recommencer par celui qui est le commencement? La première chose, ça me paraît évident, il faut recommencer par le commencement, c'est-à-dire par Jésus. Il est le commencement. Il est le commencement. Il n'y a pas de retour possible à la foi sans retour à Jésus. Il est le fondement. Il est le fondement. Au commencement, il est au commencement. Il est le commencement. Alléluia. L'apôtre Jean nous le dit dans son évangile, comme aussi dans sa première épître, ce qui était au commencement, et Jésus est au commencement. Il est au commencement de notre vie, sans lui nous ne pouvons rien faire. Il est la base de tout, il est le rocher des siècles. Il est le fondement de notre vie, de notre foi, que son nom soit glorifié. Il est celui qui est monté sur la croix pour chacun d'entre nous, donc ça c'est incontournable. Il est la résurrection et la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, première des choses, c'est de se tourner vers Jésus et tout à nouveau lui faire confiance, lui remettre sa vie entre ses mains et il va la prendre, notre vie. Dans la parabole que nous avons lue, le premier texte, nous voyons eh bien, ce berger et nous avons bien compris qui représente ce berger, c'est Jésus, qui va aller chercher sa brebis qui s'est égarée et qui va la ramener. Mais comment elle la ramène? En la portant sur ses épaules. Et il y a des personnes, lorsqu'ils reviennent, lorsqu'ils recommencent, il y a ces personnes-là ont besoin d'être portées par Jésus. Ils ont besoin d'être portés par Jésus. Ils sont tellement fatigués. Ils sont tellement usés, peut-être même blessés, les pattes sont blessées de la brebis. Ils ont accumulé certaines choses. Ils ne peuvent pas revenir tout seuls. Ils ont besoin d'être portés par Jésus et par l'Église qui est le corps de Christ. Oui. Jésus le porte sur son corps. Nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Donc on voit ici déjà eh bien, une prémisse du rôle de l'Église, c'est de porter ces personnes-là. De porter ces personnes qui reviennent, de les aider à revenir. Surtout que des personnes ont besoin de guérison et de restauration après un temps plus ou moins long, ça peut durer même des années. Ils ont besoin de restauration, comme dans la parabole du bon samaritain. Il va trouver ce malheureux qui a été battu par des brigands, là, sur le bord de la route. Il va lui donner les soins d'urgence. Mais qu'est-ce qu'il va faire après? Il va l'amener à une hôtellerie. Et c'est dans l'hôtellerie que les soins vont continuer jusqu'à la guérison complète de ce malheureux qui a été meurtri sur le bord du chemin. Et pour être sûr que l'hôtelier ait de quoi avoir pour le soigner, il lui donne une avance et s'il dépense en plus, il va lui donner. Jésus nous donne tout ce dont on a besoin pour guérir ces personnes-là. Amen. Est-ce que vous le croyez? Jésus connaît les cœurs. Jésus sait qu'il y a des personnes qui reviennent. Jésus sait qu'il y a d'autres personnes qui vont revenir, qui vont recommencer dans la foi. Et nous avons ici même l'Église, parce qu'il y a le Saint-Esprit, a les moyens de porter, a les moyens spirituels d'apporter un remède au cœur de ces gens qui reviennent dans la foi, qui recommencent et qui ont été blessés et qui ont besoin de restauration. Amen. Il est vrai que une autre étape, c'est quand même la repentance. La repentance est nécessaire. On le voit dans la parabole suivante, dans celle d'après, c'est le fils prodigue. quand il est revenu, ça a été suite à une démarche de repentance. Et ça fait quoi dans son cœur? Qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, il y a eu un déclic dans son cœur? Si il avait continué à avoir beaucoup d'argent, à s'amuser, jamais serait passé par la repentance. Hein. Jamais. Mais c'est quand il n'avait plus rien, plus d'amis, plus de fêtes, plus de tous ces plaisirs-là, et il était allé garder les cochons. Quelle humiliation! Même les cochons mangeaient mieux que lui. Ça ne sentait pas bon, en plus. Alors là, il s'est mis à réfléchir. Et il faut que des personnes tombent bien bas pour recommencer. Ce n'est pas forcément négatif que de tout perdre. Ça peut être salutaire. Ça peut être positif que de tout perdre. Que d'arriver à des situations où, ce à quoi on s'était donné, qui nous avait comme aspiré, comme je le disais tout à l'heure, qui nous avait éloigné, on ne l'est plus. Alors là, le chameau peut passer par le trou d'une aiguille. Hein. On peut en perdre la santé, parfois, et arriver à ce moment-là, en ayant tout perdu, les richesses, partent peut-être même la santé, on recommence dans la foi. Cela nous fait réfléchir, et cette réflexion que nous avons entamée, nous fasse passer par la repentance. L'apôtre Paul en parle, de la repentance, notamment dans 2 Corinthiens. Il parle de cette repentance. Il y avait besoin, car certains dans cette église, notamment un, s'étaient vraiment commis des choses graves. Mais il parle de la repentance. Certaines personnes, comme je le disais tout à l'heure, sont partis à cause d'un conflit. Un conflit dans l'église. Quand ils reviennent, quand ils recommencent, il est encore là, lui. Elle est encore là, elle. Pas évident, hein. Et alors, qu'on pensait que c'était complètement oublié, en revoyant la tête de la personne avec qui on a un conflit et qu'on pensait qu'elle était peut-être là après 10 ans, 15 ans, 20 ans, tout revient à la surface. Que d'émotions. Un homme a vécu ça. Jacob. Jacob est parti. On sait que son frère Ésaü, trompé, a voulu le tuer. Alors il part en catastrophe. Les années passent, une vingtaine d'années en gros passent, et c'est le moment de partir de chez Laban, dans des circonstances, mais quand même il va faire une alliance avec Laban, mais il faut quand même qu'il retourne dans son pays, dans son territoire. Et là, Jacob, plus il s'approche, plus il y a quelque chose, et puis il nous a même dit qu'il demeura seul, là il sait ce qui va se passer, il va revoir Ésaü. J'aimerais vous dire quand même que ce qui n'est pas réglé, ce qui n'a pas été réglé hier, ou il y a 10 ans, il y a 15 ans, 20 ans, ressortira de toute façon tôt ou tard. Ça ressortira. Et si ça ne ressortira pas sur cette terre, ça ressortira là-haut, mais il vaut mieux que ça ressorte ici. Et il vaut mieux que ça soit réglé ici. Alors Jacob, là, il va voir son frère, il va faire tout un... Mais les choses vont se régler. Dans Matthieu chapitre 5, verset 23, il y a ce serment sur la montagne. Et Jésus dira ceci: lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, et là que tu te souviennes. Je disais tout à l'heure que certains, lorsqu'ils recommencent, ne savent pas par où commencer, et d'autres deviennent excessifs dans des actes de piété, etc. Ils sont capables, peut-être, tellement désireux de bien faire, de passer des heures dans la prière, de donner beaucoup d'offrandes. Il y en a mais si tu es parti et que tu t'es éloigné parce que tu étais en conflit avec quelqu'un, c'est là que tu te souviens. Tu te souviens, c'est ce qui est écrit. Si tu te souviens, va d'abord te réconcilier. Ça, c'est là l'étape primordiale avant tous les autres actes de piété qui pourraient exister. On voit que Dieu attache beaucoup plus d'importance à ce moment-là à la réconciliation et au pardon nécessaire, indispensable. Alors Pierre va dire, mais jusqu'à quand dois-je pardonner? Parce que si ton frère a péché et vient vers toi, s'il revient vers toi et te demande pardon, mais combien de fois? 7 fois? 7 fois dans la journée quand même. Non, plus que ça. Hein. Vous connaissez ce passage? 490 fois, si vous voulez faire la multiplication. C'est énorme. C'est ainsi. Alors, comme je le disais, si c'est pour ces raisons-là que certaines personnes sont parties, qu'au bout d'un moment, au bout de quelques années, recommencent, reviennent dans la foi, il est quand même nécessaire de régler ce pourquoi on est parti. Parce que ça va recommencer, si c'est pareil. L'Église doit être empreinte de patience et d'amour. Comment recevoir ces personnes? Comment les accueillir? C'est vrai que je dis des choses comme ça, je les dis rapidement, mais tout cela mériterait bien sûr d'être développé et même de rajouter certains points avec joie. C'est vrai que dans la parabole, on voit qu'il y a beaucoup de joie, sauf de la part du frère aîné. Le frère aîné, il n'est pas content. D'ailleurs, Jésus, c'est l'aboutissement de tout son enseignement par rapport à ceux qui n'étaient pas contents parce qu'il accueillait des gens de mauvaise vie. Alors, le frère aîné, quand il voit son frère qui revient et que son père, voilà, il a tué le veau gras, il a fait les fêtes, il a fait les danses et tout le monde est content, tout le monde est joyeux, comment ça c'est pour lui? L'accueil. L'accueil est important et précieux pour des personnes quand ils recommencent dans la foi, lorsqu'ils se sentent accueillis, quand ils se sentent accueillis avec joie. Il nous faut quand même faciliter leur retour à ces personnes. Et puis bien sûr, comme je le disais, avec patience et avec indulgence. Car qui sommes-nous? La faiblesse est aussi notre partage. Comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 5, verset 2, la faiblesse est aussi notre partage. C'était par rapport au souverain sacrificateur, et tout souverain sacrificateur qui était dans l'Ancien Testament, même s'ils avaient une place bien en vue, ils étaient quand même comme le reste des hommes. Comme Élie, qui était un homme de la même nature que nous, tout prophète qu'il était, et quel prophète! Mais c'était un homme de la même nature que nous, et ses souverains sacrificateurs étaient des hommes de la même nature que nous. Donc, ils étaient conscients, ils devaient être aussi indulgents pour les autres, parce que la faiblesse était aussi leur partage. Et recevoir avec donc indulgence, avec un désir de rétablissement, un désir de réconciliation, les accueillir comme Christ les a reçus. Alléluia. Notre Seigneur est un Dieu d'espérance. Dans l'Ancien Testament, on a vu combien de fois le peuple d'Israël s'est éloigné. Ils sont revenus, ont recommencé. Combien de fois? Et avec quelle patience, et avec le cœur plein de miséricorde, avec le pardon dans le cœur, comment Dieu à chaque fois leur a pardonné, les a rétablis. Parfois il a fallu qu'ils passent par des moments difficiles, ce peuple, pour qu'ils recommencent, pour qu'ils reviennent. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant, alléluia. Il est le divin berger, il connaît chacune de ses brebis. Je veux croire que dans les temps où nous sommes, des personnes vont recommencer dans la foi. Peut-être se sont-ils attiédis, peut-être ont-ils été aspirés par certaines choses. Mais je veux croire, et c'est une prière. Seigneur, ramène à la maison. Ramène à la maison ces enfants qui se sont éloignés, ces jeunes qui se sont éloignés. Ramène à la maison ceux qui se sont fait envelopper par le péché. Ramène à la maison ceux qui ont connu des tribulations, des épreuves. Ramène-les à la maison. Ramène à la maison ces Eutychus, ceux qui se sont endormis dans leur foi. Ramène-les à la maison, Seigneur. Ramène-les à la maison. Jésus, l'ayant regardé, les l'aima. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. Aussi loin sont-ils allés, Dieu est grand pour aller les chercher là où ils se trouvent. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Gardez la foi, gardez l'espérance. Vous qui connaissez des personnes, des bien-aimés qui se sont éloignés, priez pour eux avec persévérance. Priez pour eux avec persévérance. Dieu forteresse. Amen. On va ensemble remercier notre Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu es le Dieu de l'espérance. Et nous voulons espérer contre toute espérance. Que ton nom soit glorifié, toi qui nous montres le chemin à suivre. Nous voulons, Seigneur, te prier pour ceux qui se sont égarés, pour ceux qui recommencent et qui ne savent pas par où recommencer. Te prions de les éclairer par le Saint-Esprit, Seigneur, de les guider dans toute la vérité. Fais une œuvre dans leur cœur par le Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui fais une œuvre qui nous dépasse. Tu es grand pour ôter tout ce qui a pu les empêcher, Seigneur, et tout ce qui a pu les éloigner de toi. Tu leur adresses une parole, un événement, Seigneur, pour qu'ils reviennent à toi. Donne à ton Église, par le Saint-Esprit, ces sentiments qui viennent de toi, Seigneur, afin que nous puissions les accueillir comme toi-même tu les as accueillis. Que nous puissions, Seigneur, être comme toi, Seigneur, qui a porté ces brebis. Que nous puissions, Seigneur, aussi régler ces choses qui doivent être réglées, Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Oui, tu ramènes à la maison ces brebis égarées. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen.